Bien, bonjour d'assister à cette rencontre assez extraordinaire, puisque les utopiennes ne reculent devant rien. Nous avons fait venir Robert Sheckley et Frédéric Braun d'Entre les Morts, à l'heure en plus, c'est très très bien. Donc, je vais commencer par une présentation rapide d'éléments biographiques. Frédéric Braun, vous êtes né le 29 octobre 1906 à Cincinnati. Vous êtes mort en 72 à Tucson. Robert Sheckley, vous êtes né le 16 juillet 1928 à Brooklyn, mais vous avez vécu longtemps à Mapleton dans le New Jersey. Pour finir, assez tristement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, le 3 décembre 2005 à Poughkeepsie. Alors, ce qui vous caractérise... Oui, Frédéric, allez-y.
Alors, quand même, pas tellement plus tristement que moi, parce que quand même, le délirium tremens, c'est la cirrhose du foie, c'est quand même pas génial. Hein, je le recommande à personne.
I'm sorry, but I don't speak French at all. So, would you please translate your questions?
Alors, Robert Silverberg, vous êtes venu... Alors, oui, c'est vrai, ce que vous dites, Frédéric, il y a quand même une chose étonnante chez vous deux, c'est que pour un malentendu, vous êtes présentés comme souvent deux comiques talentueux, mais l'un et l'autre, vous avez eu quand même des vies assez difficiles. Robert Sheckley, vous êtes une sorte de nomade, en fait, une sorte d'errance pendant toute votre vie. J'espère que la traduction passe. Et effectivement, Frédéric Braun, vous avez connu le démon de la littérature américaine, qui est quand même l'alcool.
C'est le démon de du polar américain.
Du polar américain.
Du polar américain, où on se nourrit exclusivement d'encre et de whisky. Dans mon cas, c'était le whisky, hein, pas le bourbon, parce que c'est quand même assez infâme, le bourbon. Il y a que les écrivains irlandais qui en boivent aux États-Unis. Donc, le bourbon a eu ma peau, mais avant, je le lui ai fait sacrément payer.
Et vous, Robert Sheckley, pas que...
Alors, moi, je ne bois que du café pendant la journée et du Coca-Cola quand je mange.
Oui, en mangeant du cassoulet, paraît-il.
Non, manger du cassoulet, c'est un de mes grands fantasmes quand je viens en France.
Oui.
Mais oui, vous parliez de mes voyages. C'est toujours ce que j'ai le plus aimé faire dans ma vie, voyager. Les moments de joie les plus intenses que j'ai connus, je pense, c'est quand je partais vers des endroits inconnus et que j'arrivais dans des endroits complètement inconnus. J'ai toujours adoré ça. Et je crois que c'est ça que je raconte dans toutes mes histoires. C'est ce moment de vertige et de décalage quand on comprend absolument rien à ce qui se passe autour.
Ça ressemble à certaines fins de ces histoires.
Alors, ce qui est curieux chez l'un et l'autre, c'est justement cette différence qu'il y a entre vous, personnage torturé, personnage nomade, etc. Et alors, vos héros, parce que j'ai cherché, j'ai évidemment travaillé, ce que vous direz à la directrice artistique, Frédéric, si vous la voyez, j'ai beaucoup travaillé cette table ronde et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas moyen de trouver un héros type chez l'un ou l'autre. C'est toujours l'homme de la rue.
Ah bah dans mon cas, c'est normal parce que je suis née dans la rue et j'en suis jamais vraiment sortie. J'ai dû faire un deuxième grade scolaire. J'en suis sortie en sachant écrire, ce que je remercie mon institutrice, Madame Smith, et les baffes qu'elle m'a mises. Mais voilà. Après, j'ai essayé, j'ai été plongeur, j'ai réparé des voitures très mal. Voilà. Et jusqu'au moment où je me suis mise à écrire parce que c'était ce qu'il y avait de plus... de moins fatigant, finalement, plutôt que la vaisselle. Hein, voilà. Donc, mais je suis quelqu'un de la rue, donc c'est normal que mes héros me ressemblent. Ils ressemblent au type avec qui j'ai bu des coups dans les bars. C'est mon voisin, c'est moi. C'est le voisin de la chambre dans l'hôtel Minable que j'ai toujours eu. Voilà, c'est moi. Madame Bovary. Non. Pardon.
Ben moi aussi, je suis quelqu'un de normal. Enfin bon, comment dire ? D'abord, je suis tombée dans la science-fiction quand j'étais tout petit. Donc, j'ai très vite eu envie d'en écrire parce que j'ai trouvé ça complètement fascinant. Il faut dire qu'à l'époque, je vivais dans une petite ville du New Jersey. J'y ai vécu pratiquement dès ma naissance et les 20 premières années de ma vie dans un petit bled qui s'appelle Maplewood, où il ne se passait pas grand-chose. Et quand j'ai découvert Heinlein, Asimov et tous les auteurs de cette période... j'ai trouvé ça complètement extraordinaire et j'ai décidé que je voulais être auteur de science-fiction. Et bah, je l'ai pratiquement été tout de suite. Ma première nouvelle a été publiée en 52, je crois. Et j'ai immédiatement plongé dans le milieu de la science-fiction. J'ai fait ma première convention en 53, l'année suivante. Et bon, ça ne m'a pas empêché de faire d'autres petites choses. Moi aussi, j'ai fait un peu tous les métiers. Puis j'ai surtout changé de femme, changé de maison, changé de pays tout le temps. Donc, en gros, je suis repartie à zéro à chaque fois. Et j'ai jamais été quelqu'un d'important nulle part, sauf dans des endroits lointains, exotiques. Je suis presque un dieu vivant en Russie, par exemple. Mais la Russie, c'est pas mon pays. Donc, partout où j'ai été, dans mon environnement, bah, j'étais quelqu'un de banal. Je crois que je suis quelqu'un de banal, en fait.
Alors, justement, vous aimez beaucoup l'ailleurs. Vous, par contre, Frédéric Brand, vous parlez beaucoup des États-Unis, tout. Par exemple, Martien Gomme, et surtout, alors c'est une invasion mondiale centrée sur les États-Unis. Et quelque chose qui est en commun aussi dans vos œuvres, et là, on pourrait citer autant de romans et de nouvelles chez l'un et l'autre, c'est le malentendu culturel. Alors, soit il vient d'une rencontre avec une civilisation extraterrestre dont les codes ne sont absolument pas les nôtres et qu'on peut interpréter de mille manières, soit au contraire, c'est des clashs intérieurs. Vous avez une très belle nouvelle, Frédéric Brand, qui s'appelle Sombre Interlude, qui est sur le racisme. Comment se fait-il que l'un et l'autre, vous ayez aussi autant insisté sur ces clashs culturels, sur ces malentendus culturels ?
C'est lié à l'histoire des États-Unis, je pense. On a vécu dans un moment où, à la fois, notre pays était en pleine expansion et on voyait apparaître les limites de cette expansion. Une des nouvelles que j'ai écrites, dont je suis le plus content, c'est Sentinelle. Dans Sentinelle, cela raconte, c'est un soldat pendant une guerre millénaire qui s'est déroulée de planète en planète, et ça y est, c'est la dernière planète où l'ennemi se cache encore. Mon personnage va tirer sur le dernier représentant de cette espèce néfaste, méchante et agressive, et il tire. Et il va contempler le dernier ennemi mort, celui qui a mis sa race carrément en danger de disparaître. Et il commente ces étranges appendices formés avec 5 doigts au bout, dépourvus d'écailles, à la peau blanchâtre, etc. Bref, le renversement, c'est que c'est un être humain, en fait. Voilà. Et là, je suis à peu près persuadée que très peu de mes contemporains américains ont compris ce que j'étais en train de dire. Ils ont ri parce que c'était le renversement, etc. Mais ce que j'étais en train de dire, en fait, c'est que toute notre belle sûreté coloniale était au bord de se casser la figure et qu'un jour, on va aller en rencontrer dès qu'ils nous mettraient la pâtée du siècle et qu'on l'aurait mérité.
Ben moi, je n'ai pas raisonné tout à fait comme ça. Je n'ai jamais eu une grosse conscience politique. Par contre, j'ai toujours été très, très attirée par les philosophes. D'ailleurs, j'ai toujours lu beaucoup plus des essais des auteurs comme Schopenhauer, Kierkegaard.
Plutôt l'humour, alors.
Pardon ?
Plutôt la littérature humoristique, alors.
Voilà. Mais j'ai assez vite arrêté de lire de la science-fiction et des romans, en général. Je m'intéressais plus aux penseurs. Mais la politique, j'ai toujours été assez critique sur ce qui se passait dans mon pays, moi aussi. Mais c'est pas grave, puisque j'ai vécu dans tellement d'endroits et je me sentais aussi bien chez moi dans la vieille Europe. J'ai beaucoup vécu en Italie, en Espagne, un peu en France, des pays que j'ai beaucoup aimés. Donc finalement, les États-Unis, j'étais pas si concernée. Je sais plus ce que je voulais dire.
Mais du coup, je peux peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire.
Oui, mais je suis pas sûre d'avoir complètement répondu à la question. C'était quoi
D'autant que, désolé Robert,
mais
les
chocs culturels.
Quand même, oui, voilà.
Les chocs culturels. Ben, en fait, j'ai toujours eu l'impression que le monde était très déconcertant et qu'il changeait tout le temps. J'ai toujours ressenti cette espèce de vertige à avoir autour de moi des gens qui avaient des réactions inattendues, incompréhensibles et qui ne me paraissaient pas logiques. Donc, tout naturellement, à chaque fois que j'écrivais une histoire, c'est ce qui venait sous ma plume. Mes personnages, d'abord, ils ne sont pas tout seuls en général. Ils vont souvent par pair, mais ça ne fait pas une grosse différence. C'est des sortes d'êtres doubles. Mais c'est plus commode quand même pour discuter et changer des points de vue. Et ils ont une espèce de gros bon sens qui leur vient de leur passé, de leur éducation, de leur propre culture, et qui se révèle complètement inadapté face à la situation. Et en plus, même s'ils arrivent à trouver la bonne attitude à avoir et s'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux, de toute façon, le truc qui se passe autour d'eux se transforme. Et ils sont en perpétuel décalage. Mais je le ressens, moi, tout le temps.
Alors, vous parliez de pair, et c'est très vrai que chez vous, les personnages vont par deux. Par contre, il y a quelque chose qui est commun à l'un et à l'autre. C'est là aussi, en cherchant le peu de personnages féminins.
Alors, chez moi, c'est sûr qu'entre la maman et la putain et la brave fille qu'on voudrait bien épouser, mais que finalement, on préfère la garce, c'est assez fréquent. Cela étant, ça va bien avec le Polar 2 que j'ai jamais cessé d'être, même quand je fais de la science-fiction. Et je n'ai pas de femme dans mes histoires parce qu'il n'y en a pas vraiment dans les polars des années 40. Sortie de la blonde platine qui va mener le personnage principal au désastre et celle qui va essayer de lui tenir le front pendant qu'il pleure au-dessus des cabinets, il n'y a pas grand monde. Mes personnages sont des êtres profondément solitaires de toute façon. Même quand ils sont amoureux fous, c'est des pulsions et pas l'amour au sens réel, celui qui se préoccupe de l'autre. Donc non, moi je suis en fait en solitaire. J'ai envie de vous lire un passage d'un de mes romans, La nuit du Jabberwock, qui représente la soirée idéale pour moi. En gros. Et ça explique pourquoi il ne peut pas y avoir de femmes dans ma vie. Je parle des romans que je vais lire, que le personnage va lire dans la soirée, parce qu'il s'est prévu une soirée tranquille. Lire un livre, c'est plus passionnant que d'écouter parler l'homme qui l'a écrit. C'est encore meilleur dans un sens, parce qu'on n'a pas besoin d'être poli avec lui. On peut le faire taire quand on veut, en fermant le livre et en prenant un autre. Et l'on peut ôter ses souliers, mettre les pieds sur la table, on peut boire et lire et tout oublier sauf ce qu'on lit. On peut oublier qui l'on est et le fait qu'on a un journal à la patte comme un boulet, jour après jour, toute la journée, jusqu'au moment où l'on rentre chez soi pour y trouver l'asile, l'oubli et les livres.
Frédéric Braun, il y a aussi, concernant la femme ou l'absence de femme, votre nouvelle Un coup à la porte, qui est peut-être un des textes les plus fameux de toute l'histoire de la science-fiction et qui commence par... Le dernier homme était chez lui quand on frappe à la porte.
Oui.
En fait, c'est une femme.
Et c'est une femme. Et je me suis toujours demandé si je considérais les femmes comme des êtres humains. Je ne suis pas très sûre, en fait.
Ça, je vous laisse la responsabilité de vous parler. Alors,
ah, mais totalement. J'assume.
Clé, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas vraiment de préoccupations politiques. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais il y a quand même. On va aborder vos chefs-d'œuvre, justement.
J'ai le droit de répondre à une question sur les femmes aussi.
Ah bah
parce
bien
que,
sûr,
parce que moi aussi,
Bob.
Alors, parce que moi, je peux vous dire, les femmes, je les connais bien. J'en ai eu 5. Donc, je connais bien ces créatures et je dois dire qu'elles m'ont toutes déçue. Et pourtant, je n'attendais que des choses très simples de leur part et bien naturelles. C'est-à-dire que la femme idéale doit d'abord faire très bien la cuisine. Elle doit mettre en ordre les papiers, s'occuper des impôts et de toute la paperasse administrative, ce que je n'ai aucune envie de faire, vous comprenez bien. Et puis, elle doit s'occuper, elle doit conseiller, elle doit soigner, elle doit chérir, elle doit créer un environnement plaisant pour son époux. Et toutes les femmes que j'ai eues, mais toutes... ont peut-être accepté de faire ça un certain temps et ont fini par arrêter. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je leur en ai un petit peu de rancune. Enfin, vous comprendrez bien que aucune d'entre elles n'a été à la hauteur du rôle que la nature lui avait dévolu. Et dans ces conditions, je ne vois pas quelle place je pourrais leur donner, sauf à inventer une femme parfaite et idéale, mais j'en ai jamais rencontré. Donc, comment pourrais-je en parler ?
Je ne doute pas qu'il y ait une femme dans l'assistance qui soit sensible à votre témoignage d'affection.
Je lui laisserai mon mail xchecle@aol.com et je suis, toute proposition sera bienvenue.
Alors, vous évoquiez Frédéric Brand, La nuit du Jabberwock. Alors, j'aimerais que vous en parliez parce que c'est un livre qui est publié, si ma mémoire est bonne, en 51 et qui en met alors, qui met 40 ans plein la vue à des gens qu'on estime ici beaucoup, comme Neil Gaiman, Grant Morrison ou Warren Ellis, mais vous l'avez déjà fait, déjà, et qui est cette espèce de télescopage entre un récit polar, parce que vous êtes tout autant un écrivain de romans policiers, et l'imaginaire de Lewis Carroll. Alors, si vous pouvez nous en parler un peu.
Bien, La nuit du Jabberwock, pour moi, c'était un jeu. J'avais l'intention de mener mon lecteur par le bout du nez jusqu'à la fin du roman, que à chaque instant, il se demande quand ça allait basculer, quand le Jabberwock allait débouler, débagouliner, et les slictueux groves avec lui, et quand le bonhomme allait sortir sa vorpale épaulée pour lui faire la fête. Et évidemment, je suis vraiment désolée, je vais spoiler, ça ne se fait pas, ce moment n'arrive jamais, car le roman, tout en étant toujours aux frontières du fantastique, n'y tombe jamais. Alors, là où je suis très, très fière de moi, c'est qu'à aucun moment, on ne peut m'accuser de rupture de contrat. C'est-à-dire que le lecteur a le droit de croire ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Mais tout mon art a été que, au moment où il imagine que le Jabberwock va débagouliner, eh ben, jamais je n'ai dit que c'était vrai et que ça allait arriver. Chaque fois, j'ai prévenu que mon protagoniste était beurré, qu'il venait de reprendre un coup sur la tête, qu'on lui avait tiré dessus, etc. Il pouvait tout à fait être en position de voir passer des monstres. Il y en avait, mais c'était des êtres humains. Et jusqu'à la fin du roman, on se retrouve dans cet équilibre extrêmement délicat qu'on va retrouver effectivement chez mes successeurs, les Neil Gaiman, etc. Avec cet usage, quel mot as-tu employé tout à l'heure ? Ce télescopage entre la littérature, la mythologie et le réalisme, qui fait qu'en fait, on atteint, selon moi, à ce qu'est réellement le fantastique, c'est une fracture du quotidien. Et ça, je l'ai réussi en 1951.
Et qui plus est, en actant deux contraintes majeures, l'une, celle du polar, qui est une longue guerre, qui est de respecter les coups d'échec du roman de l'autre côté du miroir, puisqu'il y a des déplacements en plus qui correspondent.
Absolument, c'est fascinant. C'est un ping-pong entre Alice et le Jabberwock. Et j'étais très, très, très douée sur ce coup-là.
Oui, vous pouvez, alors, quelqu'un d'autre qui peut être très fier de lui, c'est Robert Sheckley, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à Bob. Vous avez écrit Le prix du danger. Qui est en quelques mots, mais je pense que tout le monde connaît ici, les États-Unis font passer une loi qui autorise légalement le suicide, ce qui va permettre d'organiser des jeux sans responsabilité de mort pour les organisateurs, en l'occurrence des programmes de télévision, et on suit la traque d'un participant volontaire qui a déjà effectué plusieurs jeux de moindre danger, si on peut dire, avant celui-ci, la traque par trois tueurs expérimentés. Vous êtes à l'origine, mais en droite ligne, de Hunger Games. Alors, comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas un auteur politique en écrivant quelque chose comme ça ?
Ah ben, c'est les médias, ma cible, hein, plus que les politiciens. Mais de toute façon, je suis assez critique sur le capitalisme en général, les lois du spectacle et les lois du commerce. Je vous ai dit, moi, mon raisonnement, il est plutôt... C'est celui d'un individu face à un univers déconcertant et insatisfaisant. Globalement, le monde qui nous entoure est très insatisfaisant. Heureusement, on peut le prendre avec humour, parce que sinon, on se tirerait des balles dans la tête. Ceci dit,
Bah, c'est un peu ce qui se passe dans, oui. dans la nouvelle, oui.
Oui. Ceci dit, je suis toujours surpris quand on me parle de ce texte, Le prix du danger. Oui, on parle aussi de la dixième victime. Ce ne sont pas les textes les plus science-fictifs, de mon point de vue, et peut-être pas ceux qui ont été le plus importants pour moi quand je les ai écrits. Mais de toute façon, je vous avoue que je n'ai jamais vu un Hunger Games, donc je ne peux pas vous dire du tout ce que j'en pense. Même le film qu'a tiré Yves Boisset de ma nouvelle, Le prix du danger.
Mais vous l'avez vu dans des circonstances assez curieuses.
Alors, je l'ai vu chez une amie française chez qui j'ai eu l'occasion de passer quelques temps et à qui j'ai donc confié d'ailleurs le soin d'être parfois mon porte-parole dans certaines circonstances.
Sans blague.
Et j'ai, bien que ne comprenant pas le français, j'ai bien reconnu la fidélité à mon histoire, mais en même temps, moi, mon matériau, c'est les mots. Donc, à partir du moment où on traduit une histoire avec des images, avec du visuel, avec des personnages à l'écran, je suis pas très concernée. Donc, n'importe qui peut prendre n'importe laquelle de mes idées et en faire ce qu'il veut. Ça le regarde. Je suis très content qu'il le fasse, mais franchement, je me sens pas très concernée. Maintenant, si vous voulez, je peux vous parler de quelques nouvelles ou de quelques romans qui, pour moi, ont peut-être plus d'importance. Alors, d'abord, quand je me mets à écrire un texte, en général, je ne sais pas du tout où je vais. Je pars d'une situation, d'une image, et l'histoire, elle s'écrit toute seule. Je plonge dans l'histoire, je peux écrire pendant 10 heures d'affilée, pas forcément sur une très longue période, c'est aussi pour ça que j'ai écrit assez peu de romans, mais une nouvelle, j'y plonge et elle se construit sous ma plume. Je vais vous donner deux premières phrases de nouvelles pour que vous voyez sur quel genre de choses ça percute. La première phrase du Temps meurtrier, qui a été publiée aux éditions Opta, au Club du livre Anticipation, les célèbres CLA. Après coup, Thomas Blaine réfléchit aux circonstances de sa mort et se prit à regretter qu'elle n'ait pas été plus intéressante. Voilà, c'est tout.
Je suis assez d'accord avec ça. J'aurais voulu que ma mort soit plus intéressante.
Alors, un texte assez peu connu, Les vacances de Monsieur Papazian. Première phrase. Papazian apparut, déguisé en être humain. Il voulut vite s'assurer que sa tête était bien mise. Nez et pieds dans le même sens braqué, se remémora-t-il. Et il en était bien ainsi. Voilà, je ne sais pas si vous présentez toute l'histoire qui va s'engager derrière. Si vous voulez, je vous raconterai un peu plus en détail une histoire complètement... Donc je suis très fière d'avoir écrit et qui me fait encore rire, moi auteur, mais qui fait aussi lire ses lecteurs, beaucoup, vous savez, la petite Française que j'ai rencontrée là, vers les années 2004 me disait que c'était un texte qui avait marqué sa vie entière.
Qu'elle a du goût.
Elle parlait pas très bien anglais, donc moi, je ne lisant pas le français, nos échanges ont été un peu limités, mais on s'est bien compris sans trop. Je crois qu'on avait beaucoup de choses en commun finalement. Et si vous voulez, je vous parlerai de la dimension des miracles.
Mais auparavant, juste une petite chose, parce que vous avez abordé effectivement vos attaques magistrales de texte, et Frédéric Braun est aussi, de son côté, un auteur à chute. Vous avez l'art de la chute. Il suffit de prendre, par exemple, le recueil Fantômes et Farfafouilles pour voir que vous écrivez dans une espèce de veine à la Twilight Zone, c'est-à-dire qu'il y a un retournement final. Je pense par exemple à une sorte de petit bijou qui fait d'ailleurs écho à La nuit du Jabberwock, qui est hymne de sortie du clergé, où deux royaumes médiévaux s'affrontent, et le lecteur comprend très vite qu'il s'agit de pièces d'échecs. Un auteur normal serait contenté de ce retournement. C'était deux camps d'échecs. Mais non, vous poursuivez la nouvelle, donc il y a du risque, parce que vous avez déjà désamorcé votre chute, et vous parvenez, ce serait dommage de spoiler, à une fin qui a un vrai renversement, pour le coup, qui fait que la nouvelle prend une deuxième signification. Et comment ça se travaille, une chute comme ça? Comment vous avez travaillé l'arme, par exemple, un type qui file un Colt 45 à un enfant de 5 ans pour faire comprendre la menace nucléaire? C'est brillant. C'est quoi le travail de la chute? Comment vous travaillez le début?
Alors là, les brumes de la mort ont fait que je ne suis pas toujours dans le souvenir de comment j'ai construit le texte, mais ce dont je suis sûre, c'est que mon idée dès le départ, c'est que le lecteur devait se sentir intelligent en comprenant très vite où je l'emmenais. Mais en même temps, il ne devait pas sentir que j'avais un propos sous-jacent dans cette nouvelle. En racontant cette histoire de royaume rouge et noir entre les deux parties, il y a toute la partie où les soldats sont persuadés du bien fondé de leur combat. Et d'ailleurs, la mort de leurs ennemis leur prouve que c'est un combat juste. Et la nouvelle, à la fin, doit démontrer que tout ce qui a été raconté jusque-là est une terrible erreur, un terrible malentendu. Et c'est là-dessus que j'emmène le lecteur. Exactement là. Alors, j'ai totalement réussi, en toute modestie.
Et ce qui est très fort en plus, c'est que si on prend la nouvelle à rebours, le narrateur est un pion et on arrive à retrouver quel pion c'est. C'est le pion du cavalier. C'est très, très fort.
Oui.
Non.
J'allais redonner un détail.
Allez-y, oui.
J'aurais toujours en tête comment j'ai écrit le cri d'injustice de ce pion quand il voit tomber son roi, tomber son archevêque et la mort du cheval. Enfin, c'est une très grande nouvelle dont je peux légitimement m'enorgueillir. Cela étant, la petite française qui a décidé un jour de faire tourner les tables et de me ramener là, sa grande rencontre avec moi, ça n'est pas du tout sur une nouvelle drôle. Ça n'est pas une nouvelle de science-fiction, mais on en parlera tout à l'heure parce que j'aimerais vous la lire en fin de table ronde. Voilà. Il s'agit de Cauchemars en jaune.
Oh. Toute la série des cauchemars, on pourrait les lire toutes.
On pourrait faire une table ronde dessus. je veux laisser la place à Bob, qui est aussi une de mes grandes idoles.
Oui, alors je trouve que vous posez des questions bien intellectuelles et abstraites.
Mais c'est pas fini.
J'ai des préoccupations, je vous l'avoue, beaucoup plus matérialistes la plupart du temps. Et finalement, la grande question de l'univers et de toute vie, de toute créature biologique, c'est qu'est-ce qu'on mange ? Et j'ai écrit une nouvelle que je vous recommande absolument sur le sujet, par exemple. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais il y en a au moins une que je voulais vous proposer d'évoquer, qui s'appelle « Le poison d'un homme ». Mon histoire est très simple. J'ai deux personnages qui sont à bord d'un vaisseau et qui n'ont plus rien à manger. Le début est absolument pathétique, puisque ma scène introductive consiste à découper la seule chose qui reste à manger dans le vaisseau. C'est un radis qu'il faut couper en deux pour le partager entre deux hommes dans la force de l'âge qui ont très faim et qui arrivent à se poser sur une planète dans laquelle il y a un immense entrepôt. Et cet entrepôt abrite des archives et des accessoires et de la technologie appartenant à diverses races aliens absolument inconnues ou en grande partie inconnues. Heureusement, on est capable de déchiffrer quelques étiquettes. Les substances qui nous entourent sont extrêmement déconcertantes. Je vous donne juste une phrase. Ils sont en train de déchiffrer toutes les étiquettes des boîtes pour essayer de trouver ce qu'ils pourraient manger. Ils tombent sur quelque chose qu'ils arrivent à peu près à lire et dont la première lecture est incorrecte, mais voilà comment ils rectifient. Ah, j'ai trouvé l'erreur. Ce n'est pas tout le monde boit vous-y qu'il faut lire, mais vous-y boit tout le monde. Il s'agit en fait d'une substance qui est destinée à nettoyer la fourrure des créatures qui ont besoin de faire absorber l'humidité de leur peau. Voilà, tous les espoirs qu'ils ont sont très rapidement déçus. Moi aussi, je maîtrise la chute, mais chez moi, la solution viendra. Je vous la révèle ou vous ne voulez pas de spoiler ? La seule chose, finalement, qui sera comestible dans l'entrepôt, allez, je vous spoil, tant pis, vous la lirez quand même, c'est le transporteur. Le transporteur est une créature vivante. C'était la seule chose comestible.
Alors, parlant de chute, bon, pour l'instant...
En fait, oui. Bob est très souvent beaucoup plus cruel que je le serai jamais. Je ne peux pas... je ne peux pas m'empêcher d'avoir... une certaine tendresse pour les nuls que je décris. Et chez Bob, je n'ai jamais trouvé ça. Il décrit les situations avec une froideur.
Je ne suis pas d'accord, mes personnages sont des braves gens, plein de bonnes intentions. Ce n'est pas leur faute s'ils sont totalement inadaptés. C'est l'univers qui est cruel. Ce sont de braves gens. Jamais ils n'ont de mauvaises intentions. Enfin, il faut bien qu'ils survivent, il faut qu'ils se débrouillent. Ils sont très français, vous savez, mes personnages.
Très américains.
Débrouillards, petite truanderie si nécessaire. Je vous dis, ils sont plus français qu'américains.
Ah, à New York, j'avais les mêmes.
Je me sens très bien, moi, en France. Mais l'endroit où j'étais le plus heureux, j'avoue, c'était Ibiza ou Mexico.
Ah.
Et ça, vous auriez pu avoir Isaac Asimov. Donc, ne soyez...
Un jour, peut-être.
Voilà, oui. Un jour, peut-être. Alors, justement, je voudrais revenir sur cette idée de gentillesse, de cruauté que vous balancez au visage l'un et l'autre. En vous lisant l'un et l'autre, moi, je vous trouve très, très moraliste, parfois. Vous avez des punitions extrêmement dures... pour vos personnages, la cupidité, par exemple, c'est quelque chose que vous ne supportez pas chez l'un ou chez l'autre. L'orgueil, pareil, l'orgueil est puni, la méchanceté. Mais c'est au nom de quoi que l'un et l'autre vous posez en justicier ?
Oh, on est très très baigné dans l'ambiance de l'Amérique des années 50. Il y a ça. Et puis, si on sauvait tous les mauvais, plus personne ne croirait à Disney. Le public ne suivrait pas. Cela dit, j'ai horreur de l'avidité. C'est quelque chose qui n'est pas économique, que j'ai toujours senti comme étant le crime majeur de l'être humain, l'avidité. Lorsque mes criminels plantent, ils plantent en général à cause de l'avidité. Et il y a l'orgueil qui sert effectivement de fil conducteur, mais je pense à une de mes nouvelles où... le protagoniste est totalement obnubilé par la réussite de son plan point par point. Il doit assassiner son oncle pour en hériter, mais pour ça il veut faire croire à un crime de rôdeur, donc il met au point le cambriolage, etc., etc., mais il y va comme un chirurgien, comme un couturier de maison de haute couture. Il réalise son cambriolage de haute volée jusqu'au moment où il se rend compte que, dans l'enthousiasme, il a oublié de tuer l'oncle. Donc il est arrêté par les flics le lendemain. Donc là, c'est à la fois l'avidité et l'orgueil qui ont planté...
Vous parliez de rebond aussi, vous évoquiez rebond.
Rebond, c'est juste la bêtise et la méchanceté alliées.
La méchanceté.
Je vais peut-être te laisser la parole, si vous voulez dire quelque chose. Donc dans rebond, on a... un être un minable, d'une méchanceté affligeante, qui se trouve doté d'un pouvoir illimité, et notamment de faire mourir les gens sur commande, de les faire obéir aussi, mais dans les ordres qu'il peut leur donner, il y a aussi mourir. Et à la fin de la nouvelle, pour une raison que je ne vous dirai pas, parce que c'est quand même dommage, ce pouvoir lui revient droit dans la figure, et c'est bien normal. Quand même, ce n'est pas que je crois tant que ça à la justice divine, c'est plus quelque chose chez moi qui est de l'ordre de l'habitude que de la croyance réelle. Mais parfois, ça fait quand même du bien de rééquilibrer la grande balance cosmique, si tant est qu'il y en ait une.
Alors, j'avoue que sur l'avidité, j'ai produit des choses relativement perverses. puisque j'ai quand même écrit une nouvelle qui s'appelle « La même chose pour toi en double ». Dans cette histoire, mon personnage reçoit, selon le classique mythe de Faust, la visite d'un envoyé du diable. Et cet envoyé du diable, comme d'habitude, vient proposer à son client d'exaucer trois vœux. Mais ces trois vœux sont assortis d'une condition. C'est-à-dire que la condition, c'est le fait que son pire ennemi recevra la même chose en double. Donc, c'est absolument épouvantable. Il rêve d'un palais somptueux au bord de la mer. Mais son pire ennemi va avoir un château deux fois plus somptueux au bord d'une mer deux fois plus agréable, avec deux fois plus de splendides créatures au bord, déshabillées. Elles seront deux fois plus dévêtues, d'ailleurs. Enfin, c'est absolument cauchemardesque. Quoi qu'il essaie d'imaginer, l'idée que son pire ennemi aura la même chose en double lui gâche absolument tout le plaisir. Je ne peux pas vous raconter la fin pour ne pas spoiler, évidemment. Et puis, j'avoue que je ne me rappelle plus.
Non, mais c'est fatigant de revenir sur Terre. Après tant de temps, on ne sait plus où on en est.
J'ai un autre exemple, parce que cette histoire de production surabondante et d'avidité, c'est vraiment un thème qui m'intéresse. Et il y a une nouvelle célèbre que vous connaissez peut-être qui s'appelle La clé laxienne. La clé laxienne, sans aller dans le détail, nos prospecteurs, qui sont toujours en binôme, mettent la main sur un gadget extraordinaire qui est un producteur de teint grise, qui est une substance. Donc cette machine pourra en produire des quantités illimitées. Et c'est vraiment génial parce que le teint grise, on peut faire plein de choses avec. C'est la nourriture, c'est l'aliment de base d'une espèce extraterrestre, c'est un matériau de construction, ça a des tas de propriétés, ils sont heureux comme tout, ils sont toujours heureux comme tous mes personnages au début des histoires. Et malheureusement, il y en a un certain nombre et la production est effectivement illimitée et quand ils arrivent sur la planète où ils pensent qu'on va les accueillir comme des messies, finalement, la planète entière est recouverte de teint grise et on les renvoie. Peut-être même la planète a-t-elle été créée par un appareil similaire. Donc, tout le monde cherche la clé laxienne qui pourrait couper la production.
Ah, il y a aussi chez l'un et l'autre une méfiance à l'égard de la technologie et de la science. Frédéric Braun, vous avez multiplier comme une sorte d'exercice de style les problèmes du voyage dans le temps, ça se retourne toujours contre le voyageur. Robert Schlegel, vous avez écrit une très très belle nouvelle, L'oiseau gardien, qui est pour moi ce que peut être la science-fiction anticipative. C'est une nouvelle qui décrit les drones, mais c'est toujours avec un regard critique sur un genre dans lequel vous excellez, Frédéric Braun.
Alors, pas seulement le voyage dans le temps, bien que le voyage dans le temps était une source inépuisable de rigolade pour moi, j'ai aussi fait les trois grandes découvertes perdues, l'immortalité, l'invisibilité et l'invincibilité. Ma préférée étant quand même l'invisibilité, parce qu'elle démontre à quel point, tout en essayant de toucher aux choses les plus complexes, on est toujours battu par le bon sens. Et en fait, c'est un peu... Le gros défaut que j'ai, c'est que je crois au bon sens.
Nous sommes d'accord là-dessus. Moi aussi, j'y crois.
Mais du coup, on se retrouve avec des gens qui sont quand même terriblement dénués de bon sens. Et mon héros, mon personnage de l'immortalité ou surtout de l'invincibilité, en est quand même la preuve flagrante. Je vous raconte brièvement, parce que cette grande découverte perdue, elle est vraiment... En gros... Mon personnage invente le bouclier protecteur qui protégera de tout. Et pour le tester, que fait-il, Totor ? Il va s'installer sur le site d'explosion d'une des premières bombes à hydrogène, ce qui est bien logique lorsque on n'a que ça à faire. Hein. On va visiter Los Alamos, c'est une bonne destination touristique. Donc il s'installe là, il fait partir son bon bouclier, la bombe explose, et effectivement... 8 jours plus tard, il est toujours parfaitement intact, mais totalement mort et en route vers le soleil, parce que la bombe l'a propulsé dans l'espace et que dans mon bouclier, enfin, il n'y avait que très peu d'oxygène. Et ça, c'est typiquement ma vision de la technologie plus que de la science. C'est qu'il arrive que les marteaux soient mal faits ou mal utilisés.
Vous aviez évoqué tout à l'heure votre roman Chouchou, hein, qui est La dimension des miracles, qui est de 68. Vous en avez fait un sorte de pendant qui est option, qui est dans les deux cas une errance d'un individu et de son acolyte, mais je crois que vous vouliez surtout évoquer La dimension des miracles.
Oui, alors d'abord, je peux dire une chose en introduction qui sera quand même une réponse à mon camarade Frédéric. C'est que chez moi, la technologie et la biologie ne sont pas des choses différenciées. Il y a une espèce de magie, de projet qui fusionne les deux, qui les mélange. Et c'est vrai aussi dans la dimension des miracles. Alors, je vous pose le pitch un petit peu. Quelqu'un, un homme de la rue, un homme normal, un jour, reçoit la visite d'un émissaire un petit peu curieux qui pourrait être un envoyé, enfin qui se présente avec des trompettes qui sonnent. Il est extrêmement impressionnant. C'est une apparition divine, a priori, qui, très vite, voyant la tête du type en face qui est complètement ébahi par ce qui se passe, dit « Ah, excusez-moi, j'ai mal effectué mes réglages », et qui prend tout de suite l'apparence d'un homme d'affaires de la quarantaine tout à fait classique, ce qui est beaucoup plus rassurant, admettons-le, et qui vient annoncer à l'être humain qui est en face de lui « Vous avez gagné le premier prix du grand sweepstake intergalactique. Venez donc le recevoir au centre galactique ». Ce prix, enfin voilà, nous sommes très heureux, nous vous invitons à la cérémonie, voilà le contrat, un contrat tout à fait anodin d'ailleurs, qui vous permet de venir le chercher. Donc, difficile de résister à une invitation pareille. L'humain va chercher son prix, arrive au centre de la galaxie, et le problème, et tout le roman, ce sera son voyage de retour. Son voyage de retour parce qu'il n'a pas pensé à prendre une précaution élémentaire, c'est de noter quelle était son adresse. Et c'est même plus compliqué que ça, puisque au moment où il est parti, bien évidemment, sa planète avait une certaine position dans l'espace, mais tous les objets se déplacent. Quelle est son adresse actuelle? Personne ne peut la calculer. Si, l'ordinateur pourrait la calculer, celui qui lui a décerné le prix, mais il n'en a pas envie, puis ce n'est pas son travail. Ensuite, il faut trouver à quel moment il doit retourner dans l'histoire de sa planète, ce qui n'est pas simple à calculer, et puis laquelle parmi toutes les planètes alternatives il va rencontrer. Donc, je ne sais pas si tu souhaites que je le fasse maintenant, mais je peux éventuellement vous lire un petit passage des péripéties qu'il va rencontrer pendant son voyage. Alors,
avec plaisir.
Pardon ?
Avec plaisir.
Donc, je vais vous raconter le moment où, au moment où il est en train d'explorer les différentes versions d'une planète dont il espère que c'est la Terre, il n'en est pas sûr, il finit par tomber sur un architecte. C'est cet architecte qui raconte finalement l'histoire de la Terre. Alors, je commence. La Terre fut ma première application pratique, et c'est la raison pour laquelle je ne l'oublierai jamais. Un grand vieillard barbu au regard perçant était venu me commander une planète. C'est ainsi qu'est né votre monde, Carmody. J'exécutais le travail rapidement, en 6 jours, si mes souvenirs sont exacts, et je comptais bien l'oublier aussitôt. C'était encore un de ces mondes à bon marché, et j'avais dû rogner ici et là sur le devis. Mais à entendre les récriminations du client, on aurait dit que je lui avais volé ses billes. Pourquoi y a-t-il toutes ces tornades ? Me demandait-il. « Ça fait partie du système d'aération, lui disais-je. En réalité, j'étais un peu débordée à cette époque-là et j'avais oublié de mettre une soupape de protection pour la circulation d'air. « Les 3/4 de ce monde ne sont que de l'eau, disait-il, alors que j'avais bien spécifié 4 parties de terre pour une seule d'eau. Nous n'avons pas pu procéder autrement. En réalité, j'avais égaré ces spécifications ridicules. C'est toujours la même chose avec ces petits projets à planète unique. Et le peu de terre que vous avez laissé, vous l'avez empli de déserts, de marécages, de jungles et de montagnes. C'est poétique, rétorquai-je. Je me fisse pas mal que ce soit poétique, écumait le vieux. Un océan, une douzaine de lacs, quelques rivières, une ou deux chaînes de montagnes passent encore. Cela meuble le paysage et ça fait plaisir aux habitants. Mais ce que vous m'avez donné, c'est de la crotte. Il y a une raison. La raison, en réalité, c'est que nous n'avions pu rentrer dans nos frais qu'en utilisant des montagnes reconstituées, beaucoup de rivières et d'océans en guise de bouche-trou, et quelques déserts que j'avais achetés pour pas cher chez Curie, le casseur de planètes. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. Une raison ? Quelle raison ? Qu'est-ce que vous croyez que je vais dire à mon peuple ? Je vais mettre toute une race sur ce monde, peut-être même deux ou trois. Ce seront des humains faits à ma propre image. Et tout le monde sait que les humains sont difficiles, tout comme moi. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Je lui aurais bien suggéré ce qu'il pouvait leur dire, mais je ne pouvais pas l'offenser. Aussi fis-je semblant de réfléchir à la question. Et, chose étrange, je réfléchis effectivement. Et c'est là que je découvris la solution miracle. Vous n'avez qu'à leur dire la simple vérité scientifique, répondis-je. Dites-leur que scientifiquement, tout ce qui est doit être. Hein ? C'est le déterminisme, poursuivis-je, inventant le mot sous l'inspiration du moment. C'est très simple, quoique légèrement ésotérique. Pour commencer, la forme découle de la fonction. Donc votre planète est exactement comme elle devrait être par le simple fait qu'elle existe. Ensuite, la science est immuable. Donc tout ce qui n'est pas immuable n'est pas de la science. Enfin, toute chose obéit à des règles définies. On ne peut pas toujours savoir quelles sont ces règles, mais on peut être sûr qu'elles existent. Il tombe donc sous le sens que personne ne devrait demander « Pourquoi ceci et pas cela ?» Mais comment cela fonctionne-t-il ? Voilà, alors, donc j'ai inventé le déterminisme scientifique.
Alors hélas, l'heure tourne, et avant que vous refassiez votre grand voyage et que vous quittiez cet univers en folie, j'aimerais, Frédéric Brand, que vous nous lisiez l'un des cauchemars. Je crois que c'est « Cauchemar en gris ».
Voilà, c'est toute une série de nouvelles qui commencent par quelqu'un qui se réveille et qui a une décision à prendre ou qui l'a prise et qui va en tirer les conséquences. Et ça, c'est comme ça que j'ai définitivement impressionné une petite jeune de 15 ans il y a fort longtemps, et j'étais déjà mort. Cauchemar en gris. Il se réveilla avec une merveilleuse sensation de bien-être, savourant l'éclat et la douce chaleur du soleil dans l'air printanier. Il s'était assoupi sans bouger sur le banc du jardin public. Seule sa tête s'était penchée en avant. Son somme n'avait pas duré une demi-heure, il le savait, puisque l'ombre du doux soleil n'avait que peu avancé pendant son sommeil. Le jardin resplendissait du vert du printemps, un vert plus doux que celui de l'été. C'était une journée magnifique, et il était jeune, et il était amoureux, merveilleusement amoureux. Amoureux en avoir le vertige et heureux en amour. La veille, qui était un samedi, il s'était déclaré à Suzanne dans la soirée et elle avait dit oui. Plus ou moins oui. Pour être précis, elle ne lui avait pas dit oui, mais elle l'avait invité à venir aujourd'hui, dimanche dans l'après-midi, faire la connaissance de ses parents. Elle avait dit « J'espère que vous les aimerez et que vous aimeront, qu'ils vous aimeront autant que je vous aime. » Si cela n'était pas l'équivalent d'un oui, qu'était-ce ? Cela avait été un amour en coup de foudre, pratiquement, raison pour laquelle il ne connaissait pas encore les parents de la jeune fille. Adorable Suzanne, aux doux cheveux sombres, à l'adorable petit nez tout petit, presque de carlin, aux tendres taches de rousseur à peine marquées et aux grands yeux noirs si doux. C'était la chose la plus merveilleuse qui lui fût jamais arrivée. La chose la plus merveilleuse qui pût jamais arriver à n'importe qui. On était enfin à ce milieu d'après-midi où Suzanne lui avait dit de venir. Il se leva de son banc et, un peu engourdi par sa sieste, il s'étira voluptueusement. Puis, il se mit en route vers la maison, à quelques centaines de mètres du jardin public où il s'était assis pour tuer le temps. Une petite promenade agréable sous le beau soleil par ce beau jour de printemps. Il monta les marches du perron, frappa à la porte. La porte s'ouvrit et pendant une fraction de seconde, il crut reconnaître Suzanne. Mais la jeune fille ressemblait seulement à Suzanne. Sa sœur, sans doute. La veille, en effet, elle lui avait parlé d'une sœur, son aînée d'un an seulement. Il s'inclina et se présenta cérémonieusement et demanda à voir Suzanne. Il eut l'impression que la jeune fille le regardait d'un air bizarre, mais elle se contenta de lui dire « Entrez, je vous en prie, Suzanne n'est pas là pour l'instant, mais si vous voulez bien attendre au salon là, il s'assit et attendit au salon là. » C'était bizarre que Suzanne fût sortie, même pour peu de temps, après tout elle l'attendait. C'est alors qu'il entendit la voix de la jeune fille qui lui avait ouvert la porte. Elle parlait dans l'entrée, émue par une inexplicable curiosité, il se leva et alla coller son oreille contre la porte. La jeune fille parlait, semblait-il, au téléphone. « Harry, je t'en supplie, rentre immédiatement. Il ramène le docteur. Oui, c'est grand-père. Non, pas une nouvelle attaque cardiaque. Non, c'est comme la dernière fois, quand il a eu sa crise d'amnésie et où il a cru que grand-mère était encore. Non, ce n'est pas de la démence sénile. » Harry, c'est simplement de l'amnésie, mais cette fois c'est plus grave. Il a décroché de 50 ans. Il est revenu à l'époque où il n'avait pas encore épousé grand-mère. Très vieux, soudain, vieilli de 50 ans, 50 secondes. Grand-père se mit à sangloter sans bruit, appuyé contre la porte.
Ah oui, c'est... Ça fait son effet, c'est certain. Alors, il nous reste, alors, bien que mort, ils sont très ponctuels, une minute pour répondre, avant qu'il ne reparte dans l'au-delà, si quelqu'un dans le public a une question. Eh bien, dans ce cas, laissons-les, même si ça nous coûte, repartir. Vers l'au-delà. Merci beaucoup Frédéric Braun et merci à Robert Pécré.
C'est un plaisir.